à l'onde des mots, lecture libre, vivre livre. Nous avons ouvert nos livres pour les faire parler et nous donner l'envie de découvrir la quintessence des mots. Nous avons récolté des voix pour vous emporter dans le rêve, la réflexion, la méditation et l'envie d'en partager les échos.
De la revue Muse, article Reboot de Isabelle Jarry. Les prêles géantes formaient un couvert aérien d'un vert clair que le soleil perçait aisément. Les reines des prés poussaient haut leurs tiges pour atteindre la lumière, dressant leur efflorescence blanche ou rose en nuages légers qui parsemaient le paysage de touches vaporeuses. Des liquidambars et des chênes américains montaient droit vers le ciel, lançant leurs branches à l'horizontale autour du tronc, leurs feuilles éclaboussant le ciel d'une teinte sanguinolente. Le long du fleuve, la forêt alluviale colonisait les berges, rendant difficile l'accès à l'eau. Dans la plaine qui s'étendait autour du lit du fleuve, des euphorbes avaient envahi toutes les parcelles, se disputant le terrain avec de grandes fougères et toutes sortes de graminées sauvages qui attiraient les oiseaux. Des milliers de passereaux tournoyaient en permanence dans le ciel, striant l'air de leurs pépiments et de leurs trilles. Quelques bâtiments en ruine émergeaient du couvert végétal, ici la flèche d'un clocher, là les tourelles aux toitures d'ardoise d'un ancien palais, là encore les vestiges de quelques vastes édifices de pierre blonde. Au loin s'élevait la pointe d'une haute tour en fer dont le chapeau formait un point de repère dépassant largement de la forêt. Des rues jadis tracées, des boulevards, des avenues subsistaient, une sorte de quadrillage que la végétation avait partiellement recouvert, mais dont on devinait le tracé à la manière dont les plantes avaient suivi le parcours déjà établi en longeant les voies, puis en tentant de les recouvrir. Les collines qui entouraient la vallée étaient couvertes d'arbres, un mélange de platanes et de chênes, de hêtres, d'érables, de chênes verts et de pins. Les élantes et les sophoras colonisaient presque entièrement certains pans de la colline. Sur l'une d'elles, une tour rectangulaire émergeait du couvert végétal. Sur l'autre, un bâtiment laissait dépasser ses trois dômes d'un blanc immaculé. Plus près du fleuve, on distinguait face à la tour de fer les vestiges d'un péristyle en hauteur et d'un large escalier qui rejoignait la berge. On devinait sous le lierre et la mousse la silhouette des statues qui avaient autrefois orné la terrasse. Sur la rive gauche, l'énorme dôme doré d'un bâtiment circulaire formait un point saillant du passage. Non loin, les chevaux, également recouverts d'or qui surmontaient les piliers encadrant un pont encore en assez bon état, semblaient suspendus dans les airs au-dessus des frondaisons, des grandes saules et des aulnes qui s'élevaient depuis la berge. Des perroquets passaient en criant d'une rive à l'autre, tournoyant autour de la gigantesque verrière dont l'armature avait été en partie pliée par les tempêtes, explosant presque toutes les vitres. Plus en amont, sur la plus petite des deux îles, une communauté d'une quarantaine de rescapés avait élu domicile. Ils avaient défriché une large bande de terre et y avaient établi leur campement. Ils s'abritaient au premier étage d'immeubles encore solides, dont ils avaient dégagé l'accès. La boue avait tout envahi après les crues spectaculaires des hivers précédents, répandant un limon gras et fertile. Certains tentaient de faire pousser des céréales dont ils avaient récolté des grains, ça et là. La plupart préféraient chasser. Le gibier, lapin, perdrix, lièvre, pigeon abondaient. Il fallait le disputer aux chiens et aux chats sauvages, mais les hommes étaient plus malins, plus efficaces et plus organisés. Les pièges qu'ils tendaient étaient redoutables. Ils ne manquaient jamais de viande. Les enfants cherchaient les fruits, les baies, les herbes comestibles, les tiges sucrées, certaines fleurs. Et le feu brûlait en permanence sur la berge, au pied du pont, dont la statue de femme avait été décapitée. Certains disaient qu'auparavant, le lieu s'était appelé Paris. J'imagine ce que pourrait être notre ville d'ici 100, 200, 300 ans, à l'issue d'une catastrophe écologique, d'un bouleversement si énorme que la plus grande partie de l'espèce humaine serait effacée de la surface de la Terre. Épidémies, inondations majeures, épisodes caniculaires prolongés, accès dégradé à la ressource en eau, pollution atomique chimique, réserves épuisées, sources d'énergie de plus en plus limitées, etc., etc. Un cataclysme tel qu'en ont vécu les dinosaures, mais sur un temps beaucoup plus court, en un siècle, tout serait balayé. Mais la vie ne serait pas éteinte. Elle se poursuivrait dans les nouvelles conditions d'environnement établies par les espèces les plus résistantes. Et de ce qui aurait survécu de l'ancienne capitale, dans les vestiges de sa splendeur passée, recommencerait un autre cycle. Nous voici, quai Saint-Bernard, après le pont de Sully. Plus loin, sur le quai, à l'endroit que les hommes appellent le jardin en raison de la variété des arbres qu'on y trouvait, vieux de plusieurs siècles sans doute, et de la quantité de plantes qu'il était possible d'y ramasser, un édifice singulier dont on devinait l'ancienne forme octogonale, sorte d'hôtel aux murs de briques, à raser auquel on accédait par des marches usées et cassées, servait de point de rassemblement. On y célébrait le culte du dieu Urs. Mais de ceux qui avaient construit ce sanctuaire et disposé des crânes en rond sur la plateforme, on ne savait rien. Certains disaient que les bêtes vivaient plus loin, dans la forêt, à l'ouest, au sud, à plusieurs jours de marche. D'autres prétendaient qu'ils avaient leurs cavernes au nord dans des lieux souterrains que de longs tunnels parcouraient auxquels on pouvait accéder par certains escaliers connus de leurs prêtres. Beaucoup de légendes circulaient qui tentaient d'expliquer le paysage, de comprendre des édifices, les voies, les vestiges de la civilisation perdue qui avait laissé tant de bâtiments aujourd'hui déserts. On racontait la tempête interminable, le déluge, les cieux obscurcis pendant des semaines, l'atmosphère devenue sèche, irrespirable, la chaleur et la brûlure, les morts par milliers. On racontait la morsure invisible du mal noir, la soif intense, le voile sombre qui s'était abattu sur la cité, noyant tout sous une nuit terrible, dont nul sommeil ne permettait de sortir. On racontait la fuite, la course et la nage, l'affolement et la résignation, la perte irréparable des hommes et des biens, le châtiment. On ne savait plus ce qui appartenait à la légende ou à la réalité. Faute de souvenirs, de mémoire vive, de témoins, on savait seulement la perte et la perte encore. On craignait le fleuve, parfois terrible dans ses colères. Il était arrivé, disaient les plus âgés, qu'une vague géante, venue par l'ouest, repousse le cours du fleuve et contrarie son flux, créant un tumulte d'eau magistrale et d'énormes inondations. L'eau submergeait tout. Mais cela n'arrivait que rarement. Le froid, intense en hiver, faisait geler l'eau depuis les bords du grand jardin jusqu'au centre du lit du fleuve. L'été, la plaine était infestée de moustiques, et la chaleur suffoquait la petite troupe d'êtres humains. Ils quittaient la berge et s'installaient sur les flancs de la colline le plus proche. Au pied du grand temple, dont on voyait de l'intérieur, les trois coupoles enchâssés et les innombrables colonnes. Malgré l'interdiction des adultes, les enfants s'aventuraient à l'intérieur où de nombreuses peintures étaient encore visibles. Ils criaient et faisaient résonner la nef immense de leurs hurlements joyeux.
Welcome to Cool Earth FM.
Tiré de la revue Muse. Une pincée de Celte par Pascaline Ballon. En 2009, débutait dans les paysages grandioses de l'Irlande du Nord le tournage d'une série promise à un succès planétaire, Games of Thrones. Cette histoire fictive évoque de loin la société celte qui a prévalu sur l'île pendant l'âge de fer et jusqu'en l'an 800. Ce que l'on sait de cette période, on le doit à l'archéologie et à quatre cycles de récits qui concentrent la mythologie irlandaise. Ces sources montrent une organisation clanique, guerrière, dominée par une caste sacerdotale composée de druides, de bardes et de vates. Les nombreux clans initiaux ont fusionné pour former quatre royaumes qui prêtent allégeance au début du 5e siècle à un souverain qui règne depuis Tara sur l'ensemble de l'île. De ces âges obscurs émerge une figure légendaire, celle du héros Cuchulainn, doté de pouvoirs magiques, d'une force herculéenne et d'appui divin. Il a été initié à l'art de la guerre par une femme et son premier exploit l'oppose à une amazone. Aujourd'hui, le sentiment d'appartenance à ces provinces anciennes est toujours vivant. Et les 4,6 millions d'habitants de cette terre de 70 275 km² se reconnaissent encore comme gens de l'Ouest, du Sud, du Nord ou de Dublin. Au 5e siècle, toujours sans que l'on reconnaisse bien les détails de sa vie, Saint Patrick convertit l'île au christianisme. Pour cela, il entreprend de convaincre des bardes qui se font le relais de la religion nouvelle, étendant ainsi pacifiquement son influence. Le trèfle illustre le syncrétisme opéré. Alors, les trois folioles renvoient aussi bien à la Sainte Trinité qu'aux trois ordres de la société autochtone. De nombreux monastères sont créés qui bénéficient du haut degré d'instruction de la population par les bardes. Ils deviennent des centres intellectuels et culturels d'importance. Ce sont ces moines érudits qui voient débarquer les Vikings à partir de 1785. Le choc est avant tout culturel et les nouveaux arrivants y gagnent une réputation de sauvages, sanguinaires, bien loin de la réalité historique. Au tournant de l'an 1000, deux rois reprennent le dessus avant de s'affronter. L'histoire a conservé le nom du vainqueur, Brian Boru. Ce n'est pas la paix pour autant, les rois ne désarmant pas, l'un demandant son soutien à Henri II d'Angleterre, permettant le premier débarquement anglo-normand sur l'île, au XIIe siècle. À partir de ce moment, le destin de la culture irlandaise alterne phase de sommeil et renaissance jusque dans les années 1970. Entrant en clandestinité, elle privilégie les formes immatérielles, orales et sonores, ce qui explique la prévalence des lettres, du théâtre et de la musique. L'histoire, qui ne fait que commencer, des relations avec la couronne anglaise, sera jalonnée de mesures prises pour éradiquer la culture indigène et d'abord la langue celtique. Après la réforme, l'Angleterre voudra le contrôle total de l'île. Henri VIII se déclare roi d'Irlande et la colonisation commence avec l'arrivée massive de protestants anglais et écossais. C'est à cette période, autour de 1607, qu'intervient la fuite des comtes. Défaits, après une nouvelle insurrection, les seigneurs gaéliques de l'Ulster prennent définitivement le chemin de l'exil, laissant leurs gens à la merci de la politique de plantation qui se traduit par la confiscation et le morcellement des terres, la première immigration de milliers d'Irlandais expropriés, l'abandon des cultures traditionnelles et l'émergence d'une élite anglo-irlandaise protestante qui annonce les landlords du XVIIIe siècle. Durant environ un siècle et demi, l'appartenance religieuse devient un critère déterminant d'identité. Les lois pénales de la fin du XVIIe siècle interdisent aux catholiques l'accès à la magistrature, au commerce, à l'armée, à la fonction publique et l'achat de terres. Impossible d'aller à l'école ou d'enseigner. Alors, derrière les haies, les maîtres réorganisent un semblant d'instruction. En 1801, l'acte d'union fait entrer l'Irlande contre son gré dans le Royaume-Uni. À partir de cette date, la culture va jouer un rôle central dans la marche vers la démocratie. Le premier renouveau celtique important est lié au romantisme. Il s'agit du mouvement Antiquarian, du nom des historiens qui organisent en un récit cohérent la suite d'événements éparses qui cohabitent dans la mémoire des Iliens. Il s'appuie sur la fèvre qui s'est emparée depuis les années 1760 de toute l'Europe et qui veut que l'on collectionne et que l'on traduise les anciens manuscrits. En réaction à l'acte d'union, naît donc un sentiment qui lie langue, culture et destin national. Un autre moment d'effervescence culturelle et politique se situe à la fin du XIXe siècle. Se crée alors la Ligue gaélique qui, pour désangliciser l'Irlande, préconise l'emploi du gaélique, le retour aux racines, l'instauration d'un festival culturel annuel et l'institution de la Saint-Patrick comme fête nationale. 3 ans plus tard, naît un mouvement littéraire et théâtral, la Renaissance irlandaise, qui entend revaloriser l'héritage traditionnel et appelle de ses voeux un âge nouveau. Les principaux protagonistes en sont le poète William Butler Yeats et une aristocrate anglo-irlandaise, Lady Gregory. En 1904, ils fondent avec le concours de la très militante comédienne Maud Gonne l'Abbey Theatre, qui soutiendra la création théâtrale tout au long du XXe siècle et verra débuter les grands dramaturges et acteurs irlandais. Mais avant cela, l'Irlande a vécu un événement qui est encore un tabou, la grande famine et l'immigration massive qui s'est ensuivie. À partir de septembre 1845, la maladie de la pomme de terre prive la moitié de la population de l'île de son unique nourriture. Elle fait 1 million de morts et pousse sur les routes et les mers 2,5 millions de réfugiés. Ceux qui traversent l'Atlantique sont des privilégiés, les plus démunis franchissent au mieux la mer d'Irlande et viennent grossir les rangs des indigents dans l'ouest de l'Écosse, à Liverpool ou au Pays de Galles. Ces Irlandais, déracinés, exportent leur culture, la musique en particulier, et fournissent bientôt des bases et des subsides aux mouvements nationalistes et indépendantistes. C'est ainsi qu'est créée, en 1858, simultanément à Dublin et à New York, une société secrète baptisée Irish Republican Brotherhood, qui a pour objectif de préparer un soulèvement général de l'Irlande contre l'Angleterre. Ses membres attendent leur heure. Les décennies qui suivent sont marquées par la question du Home Rule, projet selon lequel l'Irlande obtiendrait son autonomie, mais sous tutelle britannique. Accepté en 1914, le Home Rule Act voit son application différée par la guerre. De toute façon, il ne satisfait pas tous les Irlandais. Au printemps 1916, Dublin est le terrain d'une insurrection menée par l'Irish Republican Brotherhood, le Sinn Féin et l'Irish Citizen Army, qui proclament une première fois la République. Le soulèvement dit des Pâques sanglantes dure une semaine. Mené par des catholiques, il est considéré comme l'acte de naissance de l'Irlandais moderne. La reddition des derniers combattants est suivie de l'exécution de plusieurs, parmi lesquels le poète et écrivain Patrick Pierce. Les femmes ont pris, de fait, une part active au combat, à commencer par la brigade féminine de l'Irish Citizen Army, conduite par la comtesse Constance Markievicz, peintre et suffragette, qui assume aussi les fonctions de commandant en second de l'ICA. Condamnée à mort pour haute trahison, elle échappe à l'exécution en raison de son sexe. D'abord peu favorable au débordement de violence de 1916, la population irlandaise est retournée par la cruauté de la répression. Et elle vote pour le Sinn Féin en 1918. Un parlement irlandais est constitué, qui proclame l'indépendance. Mais les Britanniques dissolvent l'institution. La guerre d'indépendance irlandaise commence. De janvier 1919 à juillet 1921, l'armée républicaine irlandaise, la première IRA, va enchaîner ses actes de guérilla. Mais les indépendantistes sont divisés. En 1921, des discussions s'engagent entre la couronne et le chef du Sinn Féin qui aboutissent à la signature à Londres du traité anglo-irlandais le 6 décembre. Celui-ci institue l'État libre d'Irlande, reconnaît l'indépendance de 26 comtés sur 32 et organise la partition du pays, les 6 comtés du Nord à majorité protestante restant dans le Royaume-Uni. À la guerre d'indépendance succède alors la guerre civile. De nombreux militants républicains refusent le compromis et l'IRA, anti-traité illégal mais soutenu par le président Éamon de Valera, reprend et intensifie les tueries en Irlande du Nord dès le début de 1922. Au terme d'un an et demi d'affrontement, les anti-traités sont défaits. L'IRA continue néanmoins à agir sur l'ensemble de l'île et ceci jusqu'en 1969, année où éclate le conflit nord-irlandais. Entre-temps, l'État indépendant est devenu République d'Irlande en 1949. Les troubles vont mettre les 6 comtés du Nord à feu et à sang jusqu'à la fin du XXe siècle. Et au départ, le mouvement des droits civiques proteste contre la ségrégation dont est victime la minorité catholique. À partir de là, l'opposition s'exacerbe entre républicains et nationalistes, catholiques pour la plupart et loyalistes et unionistes, largement protestants. À plusieurs reprises, cette lutte intestine manquera de dégénérer en guerre civile, comme lors de la tuerie du 30 janvier 1972 à Derry, qui a inspiré au groupe U2 sa célèbre chanson « Sunday Bloody Sunday ». Autre moment de tension extrême en 1981, quand les prisonniers républicains entreprirent une grève de la faim. 10 devaient mourir. Parmi eux, Bobby Sands, élu député en cours de grève. Il faut attendre 1998 pour qu'un accord de paix mette fin au conflit. Seulement alors, le gouvernement britannique accepte le principe qu'il revient au peuple irlandais de résoudre ses problèmes entre Nord et Sud.
Vous écoutez Couleur FM.
Extrait du magazine Muse, Tuer Cybèle, par Irène Herr, lectrice de Muse. Fragmentation de couleurs. Petite tache noire à l'horizon. Un camaïeu d'orange et de rosée merveilleux, mais également le plus sinistre coucher de soleil qu'Aspasie ait jamais vu. Sans un soupir, celle-ci ramasse sa hache et son bouclier en demi-lune. Face à elle, sa sœur en fait autant. Les seuls témoins de cette scène sont la forêt qui borde la clairière, les animaux qui certainement les épient, et peut-être ces dieux auxquels elle ne croit pas. La femme et la jeune fille se fixent quelques minutes. Il leur faut dompter leur peur, se débarrasser d'un dernier rempart, un dernier scrupule. Le silence, encore, le vent qui leur caresse la nuque, et puis une course. Les deux haches qui se rencontrent, les deux corps qui se tendent. Aspasie part de son bouclier un premier coup, riposte, sentant tous ses muscles sollicités par l'effort. Son attaque ne rencontre que le vide. Elle se protège une nouvelle fois. Depuis qu'elles savent marcher, toutes deux ont été entraînées au combat. Les haches sont lourdes, difficilement maniables. Chaque coup s'effectue dans la douleur. Et ce sont deux forces d'une valeur égale qui s'affrontent. Les coups et les déplacements d'air s'enchaînent. La sueur ruisselle dans le dos d'Aspasie. Combien de temps vont-elles tenir? Chacune tarde à prendre une décision. Leurs attaques sont vaines, leurs efforts semblent vains. Elles connaissent pourtant l'issue du combat. L'une d'elles doit mourir. Telle est la décision de leur mère, Agathe, reine des Amazones. Aspasie, tu as dérogé à la plus importante et à la plus ancienne de nos règles. Accepter d'épouser un homme, l'un de nos ennemis. Mère, c'est ainsi, je l'aime. Je n'exige ni votre pardon, ni votre compréhension. Contentez-vous de m'exiler. Ma place est ailleurs. Elle n'avait même pas essayé de nier après avoir été ramenée sous bonne garde auprès des Amazones. Près de cet homme ? Mais regarde-toi, 30 ans, tu es trop vieille pour le mariage, indépendante, amputée d'un sein, mais tu crois vraiment qu'il te gardera ? Aspasie ne répondit pas. Les paroles de sa mère faisaient écho à ses pires peurs. Tout en se heurtant à sa seule conviction, il l'aimait également. Nous appliquerons la loi. Tu es condamnée à affronter l'une des nôtres dans un combat à mort. Et si tu gagnes, tu pourras partir. Et pour te faire comprendre que chaque acte implique une conséquence, tu affronteras Cybèle. Du sang coule le long de son bras. Aspasie se redresse, revenue à ce combat auquel elle ne se voit pas de solution. Près d'elle, Cybèle tremble de dégoût. C'est le seul avantage d'Aspasie. Sa sœur mène son premier duel. Cybèle s'écarte avec précipitation, ses tremblements reprennent, suscités par le changement de regard d'Aspasie. Déterminée, leur mère n'aurait pu se montrer plus cruelle. Les deux sœurs ne se connaissent pas. 15 années les séparent. Mais quel symbole d'ordonner ce combat. Sa première et sa 10e fille, l'une contre l'autre. Une attaque. Cybèle part à l'aide de sa tâche, riposte, profitant d'une ouverture qui se referme. Un même schéma remontant à la naissance des Amazones qui se répète. Cybèle sent qu'elle a remis sa vie en jeu, sent le vide tout proche sous ses pieds et comprend qu'elle se trouve sur un fil. Agathe, la reine des Amazones, mérite bien son nom. Encore belle malgré son grand âge et froide, toujours. Sauvage. Elle exècre les hommes, leur voue une haine inconditionnelle. Ces filles n'ont été conçues que pour perpétuer la tribu sans amour. Aspasie peut mourir, sa succession est assurée. Ce soir, sa préoccupation est l'assaut que les Amazones vont livrer le lendemain contre les hommes de la cité voisine. Ces derniers ne les respectent pas et envahissent fréquemment leur territoire. Ils méritent la mort. Les attaques, les ripostes et les esquives semblent se démultiplier à l'infini. Le combat interminable et inutile, puisque sans but, entre les deux sœurs continue. Mais Aspasie sent qu'elle ne pourra pas tenir indéfiniment. Sa vigueur s'est amoindrie ces dernières années alors qu'elle atteignait un âge avancé. Il lui faut prendre une décision. Deux possibilités inconciliables. La première voie est longue. Certainement pas d'un bonheur uniforme, mais correspond à ses vœux. Rejoindre cet homme qu'elle avait trouvé au lendemain d'une bataille sur les rives du fleuve Thermodon. Une flèche, emblème des Amazones, lui traversait un pied. Trop faible pour se lever, il attendait stoïquement la mort lorsque elle était arrivée, patrouillant près de la frontière. Elle n'avait pas eu peur, non. Les hommes n'étaient que des êtres faibles, davantage encore lorsqu'ils étaient blessés. Et leur seule utilité ? La procréation. C'était ce qu'on lui avait toujours répété, ordonné de croire. Elle s'était accroupie près de lui, s'était rapidement emparée de ses armes, puis l'avait aidé à se relever. Pourquoi n'avait-elle pas achevé ? Lui l'avait regardé, des étincelles dans le regard. Il l'avait fixé, étonné de pouvoir être attiré par cet être sauvage, cruel et sadique. C'était ce qu'on lui avait toujours répété, ordonné de croire. Aspasie comptait l'aider à traverser la rivière et puis s'en aller l'oublier. Ses paroles l'en avaient empêché.
Connaissez-vous ce qu'il y a après ce fleuve ? Voudriez-vous le connaître ?
Ces phrases l'avaient obsédée, ne la quittant jamais. Et un mois s'écoula. Elle retourna sur la rive. Il l'attendait. Elle découvrit alors d'autres paysages, d'autres émotions, d'autres horizons. Adopta le point de vue des gens de la cité en s'y promenant. Découvrit la tendresse, puis l'amour. Réalisa qu'elle voulait vivre là-bas avec lui. Mais la conséquence qu'appelle cette voie lui semble impraticable. Tuer sa sœur. Cybèle n'est qu'une jeune femme conditionnée par leur mère. Comme toutes les Amazones, elle n'est entraînée par un fanatisme construit sur leur dogme matriarcal, leur unique religion. Tuer sa sœur, une innocente. Impossible, mais impossible. Aspasie ralentit, évaluant la portée des différentes volontés qui l'animent. Préfère-t-elle braver jusqu'à sa fin Agathe et les pratiques insensées des Amazones ou céder sa vie contre l'existence d'une sœur qui peut-être un jour s'opposera à son tour à la tyrannie de sa tribu? Sa volonté d'aimer cet homme jusqu'à sa mort, celle de ne pas tuer sa sœur, ou celle de défier encore leur mère. Aspasie lâche son arme. Bruit mat contre la terre. Cybèle s'arrête dans son élan. Le bouclier en demi-lune tombe également au sol. Les deux sœurs se regardent. Aspasie parle.
« Je ne veux pas. Je ne veux pas te tuer. Je l'aime. Je t'aime. »
Une goutte roule sur sa joue. Est-ce une larme ou de la sueur ? Aspasie n'a jamais pleuré.
Cybèle, C'est à toi de choisir. Tu peux me tuer, tu peux également me laisser vivre et t'enfuir avec moi. »
Elle ne lui cache pas que la sauver équivaut à l'exil. La reine n'aura aucune pitié.
Cybèle ne répond pas, s'écarte. Prendre la distance.
Prendre la décision la plus importante de sa vie.
Choisir qui elle veut être.
Elle regarde en direction du palais. La lumière, celle de son phare, brille. Agathe étudie encore sa stratégie pour le lendemain. Cette fois-ci, elle ne viendra pas la guider. Seuls ses souvenirs le peuvent.
Cybèle a 10 ans. Elle est fière d'elle. Elle vient de tuer son premier homme. Elle porte la main à son épaule.
Grimace.
Il l'a blessée alors qu'elle hésitait à l'achever. Sans les paroles d'Agathe, la veille, elle serait certainement morte.
Color FM 97.1.
Article tiré de la revue Muse, Mitraillé sur tous les fronts, par Hubert Prolongo. À moins de 30 ans, un appareil Canon en bandoulière, Laurence Jay, photojournaliste, a couvert plusieurs grands conflits. Elle apparaît mince, blonde, fatiguée par une journée de montage, presque fragile. Laurence Jay est tombée dans le journalisme presque par hasard après un voyage humanitaire. Elle, qui étudiait le commerce et la mode, a fait un peu de télé et depuis 2 ans de la photo en freelance. Des reportages près de chez elle, parmi les migrants, réfugiés à Paris, d'autres plus loin en Syrie ou en République centrafricaine. Ces photos parlent de gens de souffrance, d'espoir. J'ai découvert la photo tard par les livres. J'ai recommencé à faire des reportages de mariage quand j'avais 27 ans et je suis partie à l'étranger. Avant, elle a commencé par la télévision. Je ne filmais pas, je posais les questions. Je ne méprise pas du tout la télé. On peut y avoir un regard de même qualité qu'avec la photo. Cela dépend pour quelle chaîne on travaille. À Alep, j'aurais voulu filmer plus, pour témoigner plus. Avec l'image, il y a le son, et la télé touchait plus de gens. Mais la photo est un outil que je maîtrise mieux. Dans son travail, un maître mot, l'émotion. J'essaie de me faire oublier. C'est la clé de tout pour cela. Il faut passer du temps avec les gens que l'on veut photographier. J'attends qu'on m'oublie et je photographie à ce moment-là. Je demande toujours qu'on fasse comme si je n'étais pas là. Mais ça ne vient pas tout de suite. J'attends que les gens soient justes. Je déteste ceux qui posent et au début, c'est le premier réflexe de la plupart. Le moment le plus important, ce n'est pas quand on appuie sur le bouton. C'est avant, quand on se présente, quand on parle avec eux pour la première fois. Ce que je fais bien, ce sont les scènes de vie, pas les portraits. J'aime qu'il y ait plusieurs situations dans une photo, mais je veux que les gens sachent que je suis en train de les photographier. Surtout dans des camps de réfugiés où ils vivent dans des conditions souvent indignes, qui ne les satisfont pas. Il serait odieux de faire des photos volées. Ces photos sont souvent chargées d'informations, de situations. Je souhaite qu'une photo déborde de sens. Bien sûr, il faut qu'elle soit équilibrée, agréable à regarder. C'est le rôle du cadrage. Je n'aime pas qu'une photo soit mal cadrée, que les gens soient coupés. Mais une bonne photo, c'est 80% d'humain. La technique compte, mais pas tant que ça. J'ai de gros boîtiers, mais je travaille surtout avec mon Canon. Quand elle part avec détermination, je sais ce que je vais chercher. C'est de trouver qui m'intéresse. C'est un pari permanent. Je me balade dans la rue et je regarde. Je ne vais pas me coucher tant que je n'ai pas mes photos. Elle est allée sur des terrains chauds, en République centrafricaine, à Gaza ou en Syrie, femme parmi des baroudeurs aguerris et parfois machos. Alors cela peut être un atout d'être une femme. L'étonnement que nous provoquons chez les guerriers qui nous reçoivent peut-être un peu plus. Ils se sentent obligés de plaire, à la limite de la drague. Il ne faut pas laisser la moindre place à l'ambiguïté. Mais ceux qui sont censés le plus nous mépriser nous accueillent parfois le mieux. Mais elle travaille aussi en France. Depuis des mois, elle suit un groupe de migrants, des Soudanais, arrivés à Paris l'an dernier. Je suis avec eux. Je les aide en leur traduisant en anglais ce qu'ils ont besoin de comprendre. La petite scolarisée parle de mieux en mieux français. C'est plus facile de photographier la guerre que de rendre la vérité d'un groupe de migrants à Paris. Ce qui est difficile, c'est de gérer le stress de la guerre. Son œil change aussi. Aujourd'hui, quand je me promène, je vois les photos que je pourrais faire. Si je n'ai pas mon boîtier, ça m'énerve. Ce regard, il est unique. Bien sûr, d'autres photographes voient ce que je ne vois pas, et réciproquement. Je suis partie sur un reportage avec une stagiaire qui n'avait pas du tout le même regard que moi. Elle faisait beaucoup de verticales, pas moi. Nous nous complétions. Quand j'étais en République centrafricaine, je travaillais avec deux photographes et nous faisions des photos très différentes. Il faut vraiment qu'une photo soit évidente pour que tout le monde la prenne. En Syrie, effectivement, ça m'est arrivé de faire une photo d'un souterrain d'où sortaient les soldats et nous avons tous fait la même photo. À croire que nous nous étions tous copiés. Faut-il recadrer ? Ça m'arrive de le faire, mais c'est rare. En République centrafricaine, j'avais photographié un lynchage. J'étais restée loin et j'ai recadré. Mais généralement, si on doit recadrer une photo, c'est qu'elle n'est pas très bonne. Je retouche assez peu. Quand mes photos sont sous-exposées, je remonte la lumière, ça évite de cramer les ciels. Mais c'est à peu près tout. Là aussi, il ne faut pas se mentir. On retouche les photos les moins bonnes. Et puis, il y a celles qu'on décide de ne pas montrer du tout. Il m'est arrivé de photographier des choses et de me demander ensuite pourquoi je l'avais fait. Des corps déchiquetés, par exemple. Ça, je ne le montre pas. Pourquoi faire ? Une photo, ça doit avoir une raison d'exister. Extrait du magazine Muse. Trans, extase et conscience. Comprendre l'esprit humain et ses métamorphoses est un casse-tête vieux comme l'humanité. Sur quelle base s'appuyer ? Pour quel état des lieux aujourd'hui ? Éclairage scientifique et culturel par Pascaline Bayan. Il danse sur des tessons, transperce son corps de poignard et se fait toupie sur un clou. Le fakir, Sipas Alouvichny, qui met en garde Tintin dans le Lotus Bleu, témoigne de l'étonnement des observateurs occidentaux face aux pratiques spectaculaires des yogis. Ceux-ci considèrent pourtant comme très accessoires ces preuves d'insensibilité à la douleur. Elle n'est qu'une conséquence d'un état modifié de la conscience. Transe, extase, hypnose, mais aussi drogue, ivresse et orgasme. Sans oublier méditation et relaxation, les moyens de transformer ses perceptions, d'expérimenter un autre rapport au monde sont nombreux. L'être humain qui explore depuis la haute antiquité cherche un sens des pouvoirs ou des savoirs inédits. Ce qui rend l'élude de ces états compliqués, c'est qu'elle ne peut s'accomplir sans passer par la pratique. Ce qu'il s'agit en effet de comprendre, c'est la manière dont le corps pense. Impossible, donc, de faire l'impasse sur l'engagement du corps. Christine Le Scanf, psychologue universitaire à Caen, spécialisée dans l'étude des pratiques sportives, est aussi aikidoka de haut niveau. Elle a écrit il y a 20 ans un livre, « La conscience modifiée », qui analyse précisément les différentes techniques qui introduisent à un état second. Christine Le Scanf explique « Pour moi, la conscience modifiée est une autre façon d'être au monde, d'avoir d'autres perceptions du temps, de l'espace, de soi-même, de ses sentiments. On peut la placer sur une échelle, échelle de la vigilance qui va du coma à l'excitation extrême. Dans l'excitation extrême, ce sont les phénomènes de transe vers l'immobilité absolue, ceux d'extase. Mais de quoi parle-t-on quand on évoque la conscience ? Les philosophes ne sont pas privés de souligner la difficulté d'un exercice qui revient à demander à la conscience de s'auto-définir. Ce concept, dans son sens moderne, détaché de toute dimension morale, n'a d'ailleurs pas toujours existé. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que le terme apparaît dans l'acceptation que nous lui connaissons et qu'il participe à la réflexion sur ce qu'est l'esprit. Aujourd'hui, qu'en disent les neurosciences ? Spécialiste du coma à l'université de Liège, Stephen Lawrez est internationalement reconnu pour ses travaux sur la conscience. Il constate dans un « Si brillant cerveau » paru en 2015 qu'il n'en existe pas de définition universelle. « Pourtant, écrit-il, nous savons tous de quoi il s'agit. Nous le sentons au plus profond de nous-mêmes. La conscience, c'est ce que l'on perd lorsqu'on s'endort le soir et que l'on retrouve le lendemain matin au réveil. » À partir de son expérience de médecin confronté à des sujets plongés dans des états limites de conscience, Stephen Lawrence énonce avec prudence et modestie ses conclusions actuelles. Le contenu de la conscience renvoie à deux dimensions, la conscience de soi ou de notre monde intérieur d'une part, et la conscience sensorielle ou perceptive du monde extérieur d'autre part. Et il précise: tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on ressent, le goût et l'odorat, toutes les perceptions des choses qui nous entourent relèvent de la conscience du monde extérieur. Notre conscience du monde intérieur concerne le reste, c'est-à-dire toutes les pensées qui ne dépendent pas de stimuli extérieurs, notre imagerie mentale, de même que cette petite voix intérieure qui nous parle. Entre ces deux formes d'état de conscience qui semblent correspondre à deux réseaux dans le cerveau, le cortex associatif frontal pariétal latéral et le cortex associatif fronto-pariétal interne, le spécialiste établit ce qu'il appelle une corrélation négative. En prenant davantage conscience de votre monde intérieur, vous négligez ce qui se passe dans le monde qui vous entoure, et inversement. Si votre voisin fait beaucoup de bruit dans son jardin, vous aurez du mal à vous concentrer sur vos pensées. Et inversement, si vous êtes absorbé par vos pensées, par votre imagerie mentale, vous n'entendrez pas que quelqu'un pénètre dans la pièce où vous vous trouvez. Autre précision apportée par Stephen Lawrence, nous avons remarqué que la conscience de soi et la conscience du monde extérieur alternent en moyenne toutes les 20 secondes. L'hôpital universitaire de Liège, où il travaille, est réputé depuis les années 1990 pour son approche pionnière en matière d'anesthésie. C'est en effet cet établissement qui, le premier, a proposé l'hypnose comme alternative au sédatif classique pour certaines opérations, notamment celle de la thyroïde. Stephen Lawrence, aux premières loges pour suivre les travaux de sa consœur Marie-Elisabeth Fémonville sur la douleur en essure, nous pouvons influencer l'intensité de nos consciences du monde intérieur ou extérieur. C'est ce qui se passe notamment dans le cadre de la méditation ou de l'hypnose, lors desquelles nous allons donc tenter d'accroître la conscience du monde intérieur d'une personne en vue de diminuer la conscience du monde extérieur. La clarté des propos de Stephen Lawrence ne serait pas faire oublier que de grands désaccords opposent les neuroscientifiques. Si la question de la conscience, longtemps taboue, ne l'est plus, les plus éminents spécialistes s'affrontent, par exemple, sur sa localisation dans le corps. Ainsi, Pim van Lommen défend une vision selon laquelle elle ne serait pas un produit de l'activité du cerveau. Intrigué par les récits de mort imminente d'un certain nombre de ses patients, ce cardiologue néerlandais réfute les explications matérialistes du phénomène. Au terme d'une étude, pour l'heure controversée, il a acquis une conviction qu'il expose dans la revue Inexplorée en 2012. Nous avons un corps, mais nous ne sommes pas ce corps. Nous n'avons pas une conscience, mais nous sommes cette conscience. Ce qui implique que les aspects physiques qui vous constituent vous apparaissent comme mineurs par rapport à l'être entier que vous êtes. Votre ego, la partie ordinaire de votre conscience, n'est pas vraiment qui vous êtes. La partie la plus élevée de votre conscience est interconnectée avec tout, le passé, le présent et le futur. J'appelle cela la dimension non locale de la conscience. Tout est disponible en permanence. En ce sens, je pense que tout ce qui relève de l'intuition, du génie, provient de cette dimension non locale de la conscience.
Couleur FM 97.1.
Extrait de la revue Muse, article Fanny. Bon, qui s'y colle sur le sujet des grandes marées en Bretagne? Un ange passe dans la salle, réunissant l'équipe des pigistes d'ITVJ, la nouvelle chaîne d'information des jeunes. Personne n'est intéressé, pas une virée à Saint-Malo? Fanny, tu pars avec Sam et sa caméra? Tu me fais un direct tous les 15 minutes à partir de demain 8h? Allez, go! Pourquoi moi?
Fanny n'a pas eu le temps de dire qu'elle avait des projets pour ce week-end. Elle devait partir avec Mathieu, en amoureux, à Étretat, pour 2 jours, dans un hôtel situé sur la falaise, face à la mer. Il voulait se retrouver, enfin seul, car depuis qu'elle a trouvé ce job, il ne se voit plus. Mathieu travaille au ministère de la Culture comme chargé de mission et son emploi du temps est peu compatible avec celui de Fanny. Ils se sont rencontrés banalement à Sciences Po. Ils ont galéré ensemble pour se faire une place à Paris. Et voilà, c'est fait. Mais à quel prix ? À quel prix ? Un appartement minable à Montparnasse, dans le 14e arrondissement ? Une vie de dingue depuis qu'ils bossent tous les deux ? Fini les sorties au resto et les fiestas avec leurs potes ? Aujourd'hui, ils se croisent et, pour les potes, ils continuent à faire la fête, mais sans eux. Ou ils ont déjà des gosses et ne sortent plus. Fanny est à 100 lieues d'imaginer avoir un enfant aujourd'hui. Non, pas à son âge, 25 ans. Pff. Mathieu a 26 ans et pour lui, c'est hors de question. Il a programmé leur premier enfant à 30 ans et le second à 33. Bon, il ne faut pas trop d'écart entre les deux car après on en bave. Qu'est-ce qu'il en sait ? Merde, Matt va me tuer ! Pourquoi ? Parce que je pars avec un idiot caméraman faire un direct sur un sujet de merde. Ah cool ma cocotte ! J'ai rien demandé moi. Eh ben moi non plus, hein. J'avais un week-end de prévu. Bah, moi aussi, je devais aller voir le PSG. Oh, t'es ringard, Sam. À part ton foot et ta caméra, tu n'aimes personne. Ah si, j'aime aussi ma mère, et je t'emmerde. Bon, tu me passes me prendre à 4h du mat, devant chez moi. On arrivera juste à temps pour notre premier direct. Ok, Fanny. Hé, Sam.
Quoi ?
Je suis désolée, hein, mais je suis déçue, ça m'énerve. Ne m'en veux pas.
Ouais, t'inquiète. Tu sais que je t'aime, hein.
Ouais, ben, reste à distance, mon pote, hein. Fanny sort des locaux de ITVJ. Il pleut sur Paris en ce mois de février. Les Parisiens sont gris et irascibles. Fanny s'engouffre dans le métro et prend le masque du mort-vivant pour éviter toute interaction. Pour éviter qu'un paumé lui demande 1 euro ou qu'un connard vienne la tripoter. Elle ne supporte plus cet espace confiné, saturé d'indifférence et de peur. Les seuls instants de répit, ce sont les musiciens qui lui procurent. Elle s'arrête souvent devant un concert et elle réintègre, pour un instant, son visage d'ange en souriant. Elle adore le jazz. Cela fait un peu ringard pour son âge, mais bon, c'est son père qui lui a fait découvrir Miles Davis et Charles Mingus pour le classique, et les Uzeb et Weather Report pour le jazz rock. Aujourd'hui, il n'y a pas de musicaux. Et Fanny fait la gueule. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à Mathieu ? C'est lui qui a provoqué ce séjour en romantique. Il s'est occupé de la réservation, pour une fois. Oh là là. Je crois qu'il nous avait réservé un resto super classe pour samedi soir. Oh, je suis dégoûtée. Fanny entre dans une rame, reste debout et s'accroche à la barre. Elle a placé ses écouteurs et savoure en fermant les yeux un morceau du violoniste Didier Lockwood. Have to find a way. Elle se laisse envahir par la musique et rêve de vacances au soleil avec Matt. Loin du bruit, de la rame qui freine et manque de la faire tomber. Elle ouvre les yeux et pousse un cri. Oh, putain ! En ouvrant les yeux, elle découvre le visage d'une vieille dame toute fripée qui lui sourit.
Prenez garde à vous, ma fille. Oui, oui, vous courez un grand danger.
Ça va pas ou quoi ? Les portes s'ouvrent et Fanny s'enfuit sur le quai, agacée par l'intrusion de cette vieille sorcière. Elle se retourne une dernière fois et constate qu'elle s'en prend à un autre passager. Il y a vraiment des tarés dans le métro, hein. Elle arrive à l'appart. Matt n'est pas là, mais il ne devrait pas tarder. Elle ne sait pas comment elle va lui annoncer qu'elle est réquisitionnée par un reportage en Bretagne. Elle dépose ses clés sur le meuble de l'entrée et découvre une enveloppe à son nom. Fanny, je te quitte. Je passerai lundi prendre mes affaires, je suis désolée, mais... Je t'embrasse. Elle s'écroule sur le tapis de l'entrée. Elle met plusieurs minutes avant de reprendre connaissance. Et elle se souvient et éclate en sanglots. Mais c'est incompréhensible. Elle n'a rien vu arriver. Et le week-end à Étretat, c'était quoi ce cinéma ? Elle compose le numéro de Matt et tombe sur sa messagerie. Alors elle laisse un message. Mathieu, je ne comprends pas. Je t'aime, tu sais. Reviens, mais appelle-moi. Comme une zombie. Elle ouvre une bouteille de vin et se sert un verre plein. Elle allume la chaîne, le volume à fond et sort une cigarette. C'est un album de Bill Evans, From the 670s, que Matt a dû écouter juste avant de partir. Il aimait écouter Après l'amour. Le piano les berçait longuement avant qu'ils ne reprennent le cours de leur vie. Fanny s'allonge sur la moquette, les yeux noyés par les vagues de larmes. En Bretagne, le vent se lève et la mer s'agite. Cette année, la marée sera exceptionnelle. De très loin, Fanny perçoit une sonnerie. Elle tourne la tête et tombe nez à nez avec une bouteille de médoc vide. Elle a la bouche pâteuse, elle a dormi par terre, son crâne va exploser et la sonnerie la persécute à nouveau. Putain, mais quelle heure il est ? Fanny regarde sa montre, 3h45 du mat. Oh, merde, c'est Sam, leur portage, oh là là. Fanny se lève difficilement et va ouvrir la porte. Sam découvre le chantier dans l'appart et la tête des fêtes de sa collègue. Ça ne va pas, Fanny ? Non, enfin, c'est rien. Matt m'a quitté. C'est pas vrai. C'est parce qu'on va en Bretagne pour les grandes marées ? T'es con, Sam. Tu pleures ? Non, je pleure pas. Je suis bourrée. Elle se jette dans ses bras et verse le reste de ses larmes sur la chemise de Sam, qui la serre tendrement. Ils prennent un café en silence. Fanny part faire une toilette express et revient avec le sourire et les yeux brillants. Hé ! Il te reste combien de points sur ton permis, Sam ?
Bah, tous, pourquoi ?
Parce que pour arriver à 8h à Saint-Malo, va falloir que t'acceptes d'en perdre quelques-uns.
Ok, Fanny, cap sur le Finistère.
C'est l'Ille-et-Vilaine, idiot. La voiture roule à 160 km à l'heure. Pendant tout le trajet, Sam a perdu 8 points dans cette équipée, mais il est d'humeur joyeuse.
Dis donc, ça veut dire quoi ? Que tu es libre maintenant ?
Alors là, n'y pense même pas, Sam. Je t'adore, mais tu n'es pas du tout mon genre de mec.
Ah bon ? Pourquoi ?
T'es un vieux célibataire endurci que sa mère entretient comme un gosse de 18 ans. Et je n'aime pas le foot.
Oh ben si tu changes d'avis un jour, hein, je serai toujours là pour toi.
Sam, je te remercie de me supporter. Tu sais, ils se font rares les amis en ce moment. Et ça me fait chaud au cœur de pouvoir compter sur toi. Je peux au moins gueuler sur quelqu'un. Et toi, tu ne t'enfuis pas. Je t'aime, mon vieux Sam.
Ouah, tu vas me faire chialer, arrête.
Allez, roule, on est à peine à 120 km/h. Saint-Malo, 7h30, la voiture fonce vers le front de mer, le vent souffle fort et les rafales font trembler le C3 Picasso rouge dit TVJ. Ils n'ont pas le temps de réfléchir et le hasard les mène à la cale de Rochebonne, à l'extrémité nord de la digue de Saint-Malo. Des badauds sont déjà là pour voir la mer se déchaîner et s'écraser sur les contreforts de la digue. Les vagues explosent et les embruns s'envolent à 20 mètres de haut, aspergeant les maisons construites sur le front de mer. Le bar, la caravelle, à gauche de la cale, est calfeutré par des planches de bois pour éviter que les vitres ne cassent comme l'année dernière. Fanny et Sam se garent et sortent leur matériel. Ils ont 15 minutes pour s'installer. Fanny, qui a endossé son blouson bleu de la chaîne TV, fait un essai son avec Sam. La mer s'engouffre littéralement dans les rues au-delà de la cale. « Faites attention, madame. Vous pourriez être emportée par une vague trop forte. » Fanny se retourne et regarde cette jeune femme qui tient par la main une petite fille adorable. « Ne vous inquiétez pas, je pourrais vous interviewer ? Je vous demanderai simplement si vous avez déjà vu une telle marée à Saint-Malo. »«
Oui, si vous voulez. »«
Comment vous vous appelez ? » ?»«
Moi, c'est Fanny. »«
Je suis Aurore et voici ma fille Anna. Vous êtes du quartier ? » ?»«
Nous habitons dans la ville, close, et j'attends un ami. »
Oui, même qu'il est peintre et qu'il s'appelle Argan. Maman est amoureuse de lui.
Anna, tu dis n'importe quoi.
Fanny est amusée par ces deux petits bouts de femme. Bon, je commence et puis je me retourne vers vous et je pose ma question. Le caméraman fera un gros plan sur vous, ok ?
Ouais, si vous voulez.
Vous savez, je suis pas sûre d'être la personne qu'il vous faut, hein.
Si, maman ! Et on pourra se regarder à la télé après.
Son téléphone sonne. C'est le plateau de télévision à Paris. Dans 5 minutes, vous êtes à l'antenne.
Ok, on sera prêt.
Son téléphone sonne à nouveau.
Quoi, bordel, laissez-nous travailler.
Fanny, c'est moi, Matt. Je m'excuse, je suis perdue, mais je t'aime.
Fanny, dans 3 minutes, t'es en direct.
Allô, Fanny, tu m'écoutes ?
Mathieu ?
Moi aussi, je t'aime. Excuse-moi, mais je fais un direct et je n'ai pas le temps de te parler. Tu avais mis Bill Evans avant de partir, mon amour.
Fanny, je regrette, et je veux qu'on recommence à zéro ensemble.
Bill Evans ?
Non, je ne me souviens pas.
Fanny ? Elle se retourne machinalement et aperçoit la jeune femme et l'enfant qui sautent dans les bras d'un jeune homme. Ils tournent tous les trois jusqu'à perdre l'équilibre. La petite embrasse sa maman et son amoureux,
Il semble heureux à cet instant. « Fanny, tu m'écoutes ? Allô ?» Elle ne peut se détacher de ces trois êtres en symbiose. « Allô ?» Elle repense à la vieille sorcière du métro. Son message « Vous courez un grand danger !» Il m'a dit qu'il n'avait pas mis Billy Vance. Après l'amour ?« Allô, Fanny, mon amour ?» Va te faire foutre, Mathieu. Je ne veux plus te voir. Si tu m'aimais, tu serais là avec moi. Tu t'es barré comme un lâche avec une poufiasse qui a dû te poser un lapin après que tu l'aies baisé chez moi. Tu te retrouves comme un con à Étretat et tu repenses à Fanny, la bonne poire. Eh ben, c'est terminé, Matt. T'es pas foutu de m'aimer. T'es égoïste. Tu n'es qu'un salaud. Je veux rester vivante, Matt. Passe lundi prendre tes affaires. Je ne serai pas là. Et tu peux emporter le CD de Bill Evans. Sale menteur. Elle raccroche. Elle est en larmes. Elle sourit, elle croise le regard d'Aurore qui lui sourit, les yeux grands ouverts. « Direct !» crie Sam. « Priorité au direct sur ITVJ à Saint-Malo avec Fanny. Alors Fanny, comment ça se passe du côté de Saint-Malo avec une grande marée ?» Fanny, dos à la mer, face à la caméra, n'entend pas les cris des badauds autour. Elle est concentrée maintenant sur son intervention en direct. Elle s'apprête à répondre à sa collègue journaliste quand elle aperçoit enfin le bruit sourd de cette vague gigantesque qui brutalement l'avale, la balaie, la roule, la noie et l'emporte vers la mer sombre en se retirant. Personne n'a rien pu faire. Sam a tout filmé par instinct et le monde entier a vécu la scène en direct. Il pose enfin sa caméra quand il comprend que Fanny a disparu. « Elle est partie où, Fanny, maman ?» En bord de digue, un homme a plongé dans la mer sombre. Personne ne l'a remarqué. Il est ballotté par les vagues immenses, mais il tient le cap. Il plonge soudainement et remonte Fanny inconsciente. Des personnes finissent par apercevoir le couple et rapidement, une bouée est jetée à la mer. Au prix d'un effort incroyable, l'homme réussit à rejoindre la bouée en tenant hors de l'eau la tête de Fanny. « Massage cardiaque, vite, vite !» Les pompiers font tout pour sauver la jeune journaliste. À quelques mètres, le sauveur est pris en charge par une autre équipe de sauveteurs. « Pourquoi avez-vous sauté à la mer ? C'était quasiment un suicide !»« Oh, je ne sais pas. Ce matin, une vieille femme m'a dit que j'allais sauver une jeune femme. Je n'ai pas très bien compris. Vous comprenez, j'étais dans les nuages. Vous êtes un héros, monsieur. C'est incroyable !»« Alphonse. Je m'appelle Alphonse Mallet. Vous allez bien, monsieur ? Vous avez l'air bizarre. » Fanny finit par tousser et vomir sur le pompier qui lui prodiguait les massages cardiaques et le bouche à bouche. Elle est sauvée. Aurore Argan et Anna sont déjà à ses côtés pour la réconforter. Le pompier, Marc Lefort, s'éloigne d'Alphonse un instant pour soutenir ses collègues. Hey « Hé Marc !»«
Ouais ?»«
Tu sais qu'ils ont donné un nom à l'emplacement de la bouée en hommage à un gars qui a sauvé une jeune femme il y a quelques années ? C'est marrant, non ?»«
Ah bon ? C'est qui alors ce héros inconnu ?»
Alphonse Mallet. Marc Le Thor, stupéfait, manque de s'étouffer en buvant une gorgée d'eau.
Ça va mieux ?
Il se retourne vers le sauveur de Fanny et aperçoit la couverture de sécurité s'envoler dans les airs. Il est où mon gars ? Quel gars ? En tout cas, elle a eu de la chance d'attraper la bouée, la petite journaliste.